C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 26 janvier et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1 FM. 40% des déchets marins sont des filets de pêche. Un filet de pêche, justement, ça a une durée de vie d'en moyenne un an. Alors, que faut-il en faire? Est-ce qu'il faut s'en passer? Ça paraît aujourd'hui encore trop compliqué. Est-ce qu'il faut les faire durer plus dans le temps? Ça paraît une bonne idée, mais complexe, et ça n'évite pas les déchets. Alors, partons des déchets, justement, de ces tonnes de filets de pêche dont on ne sait que faire, si ce n'est s'en débarrasser. Et si on les recyclait pour en faire une nouvelle matière, une nouvelle sorte de plastique? C'est l'idée qu'a eue la start-up bretonne Fil & Fab, montée par trois jeunes designers brestois, Théo Després, Thibaut Huguin et Yann Louboutin. Yann, qu'on reçoit à l'instant au téléphone. Bonjour Yann. Je me demandais comment est venue cette idée.
En fait, l'idée, elle est née assez bêtement. En fin de compte, on était étudiants quand le projet a démarré. À l'ESAB, donc à Brest. C'était le projet en fait d'études de Théo, donc un des trois associés. Et en fait, lors d'une soirée, on s'était dit, bon, on va essayer de chercher des idées, on a à peu près les mêmes convictions concernant l'écologie, concernant l'éco-conception, concernant le design, ces choses-là. Et la soirée s'est éternisée et s'est finie sur le port de Brest. Et en fait, il y avait des filets de pêche sur le port. Et là, la question toute bête, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Et à partir de cette question toute bête, des recherches ont commencé, on s'est rendu compte que rien n'était fait. Donc il y a eu pas mal d'expérimentations derrière, un petit peu comment matériel, on n'avait pas forcément de connaissances, et puis on était étudiants en design, donc on était focalisés sur l'idée de pouvoir faire un objet avec. Donc on a commencé à expérimenter, etc. Puis ça a dérivé jusqu'à aujourd'hui.
Et justement, en parlant de ce qu'adviennent les filets de pêche, est-ce qu'ils sont brûlés? Est-ce qu'ils sont jetés? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui devient?
Jusqu'ici, en fait, les filets, ils étaient la plupart du temps brûlés ou enfouis, mais aussi envoyés à l'étranger. Il y a des filières en fait de collecte qui existent déjà. Tous les ports ont des bennes, des systèmes de collecte pour les filets. Et en fait, nous, ce qu'on apporte, c'est juste une solution locale de revalorisation. L'idée, c'est de se dire que ces déchets-là qui sont déjà collectés, qui sont déjà identifiés et déjà plus ou moins triés, plutôt que de les enfouir ou de les envoyer à l'étranger, on peut les recycler en fait localement, notamment en Bretagne, qui représente 50% du gisement français, donc qui représente à peu près 300 tonnes annuelles. Autant implanter. L'idée qu'on a eue, c'était de dire autant implanter en fait la solution de recyclage directement à la source de la problématique. Donc voilà pour l'activité et puis pour la raison pour laquelle en fait on a lancé Filetfab, c'est de pallier en fait à cette non valorisation d'un déchet qui est pourtant de bonne qualité puisque c'est des plastiques qui sont notamment un polyamide 6 qui est un plastique très performant. Qui est un plastique technique avec lequel on peut faire énormément de choses.
Mais ça, on y reviendra juste après. Et du coup, parce qu'à la base, donc, ce que vous me disiez à l'instant, c'est que ça part d'une envie de faire quelque chose d'écologique, quelque chose pour la planète, un geste pour tous les trois. Mais j'ai l'impression que si vous êtes arrêté sur les filets de pêche, c'est un peu par hasard. Est-ce que vous auriez pu décider de vous intéresser à autre chose, des déchets plastiques ou autre?
Je pense que c'est on aurait pu tomber sur autre chose, forcément, parce qu'on ne pouvait pas prédire, mais filet de pêche, c'est en fin de compte une évidence un petit peu pour filet fab, pour les trois fondateurs, puisqu'on est tous les trois bretons, tous les trois brestois, et la problématique elle était sous nos yeux en fait depuis très longtemps. Et juste le fait qu'elle apparaisse, voilà, l'évidence est là et on travaille pour. Je pense que la localité a un impact très fort dans la définition de ce qu'on aurait fait. Si on avait été, je dis une bêtise, dans les Pyrénées ou dans le Jura, on aurait eu une activité différente. On aurait essayé de faire autre chose comme projet. Mais à nos yeux, en fait, le design était forcément local. Il fallait forcément réfléchir par rapport à un territoire, par rapport à des savoir-faire locaux ou à une activité locale. Donc, c'est un hasard, mais de par notre localité, ça n'en est pas vraiment.
Et justement, en parlant de localité, c'est quoi votre rapport à la mer, à tous les trois? Je ne sais pas si vous pouvez parler au nom de Thibaut et Théo, mais c'est quoi votre rapport à la mer et à la base? Et est-ce que s'intéresser de cette manière au filet de pêche, ça a modifié votre rapport à la mer?
Je ne sais pas s'il a vraiment modifié notre rapport. On y a toujours été proches, je pense surtout à Thibaut et moi-même, parce qu'on est bretons, nous, de base, on vient de Mayenne, et il l'a découvert un peu plus tard. Mais on a forcément un lien qui est fort avec elle. Enfin, on y va tous de temps en temps pour ne serait-ce que souffler un peu, pour aller faire du surf, pour aller nager, pour aller juste se balader sur la plage. Enfin, je pense qu'on a tous les mêmes, en tant que bretons, brestois, on a tous un peu ce même lien avec l'océan. Je pense qu'avant même qu'on démarre Filet Fable, on savait en fait que les écosystèmes marins étaient particulièrement menacés. Donc je pense pas que ça ait particulièrement changé notre perception. Ça l'a plutôt renforcé en fait. Ça a renforcé nos convictions que tous ces environnements-là, ces écosystèmes, sont des éléments à essayer de protéger au maximum. Malgré nous, on le fait pas, puisque nous, c'est un déchet portuaire qu'on recycle et pas un déchet marin. Donc, chacun sait faire un petit peu ce qu'il peut. Mais non, je pense que ça a juste renforcé en fait nos convictions et notre vision qu'il faut essayer de faire le maximum de choses pour essayer de protéger ces écosystèmes-là.
Et pour revenir sur les filets de pêche, est-ce que tous les filets de pêche sont recyclables? Est-ce que tous les matériaux qui les composent sont recyclables?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des filets de pêche, il en existe de plein de sortes, puisqu'il y a différents types de pêche, forcément. Nous, on se concentre juste sur ce qu'on appelle les filets. Donc, c'est pas les chaluts, en fait. Les chaluts, ça peut être des filets énormes qui vont peser très lourd, qui vont prendre énormément de poissons. Nous, donc, on est sur des filets qui sont beaucoup plus légers, qui sont à peu près tous du même matériau, même s'ils sont composés de différents matériaux. Nous, pour le moment, on est capable seulement de recycler donc les filets de pêche, donc c'est des filets en polyamide 6 avec certains cordages qu'on est obligé d'enlever parce qu'ils sont dans un plastique différent et on peut pas recycler tous les plastiques en même temps. Si on essayait de le faire, on ferait juste quelque chose de pas intéressant, de pas performant techniquement et du coup, essayer de recycler pour faire quelque chose qui est pas utilisable par la suite, ça n'a pas trop de sens. Donc nous, on démonte en fait l'intégralité de ces filets-là. Donc, c'est notamment ce qu'on peut voir au Conquet, à l'île de Bas, qui sont des ports avec qui on travaille. Donc tous les filets sont recyclables à condition qu'ils soient suffisamment bien démontés, enfin qu'ils séparent suffisamment bien tous les différents types de plastique. Et c'est ce qui prend malheureusement plus de temps parce que c'est des éléments composites avec plein d'éléments différents, entre les flotteurs, les cordages, les filets, les cordes plombées, toutes ces choses-là sont à séparer pour les rendre recyclables. Donc filet FAB pour le moment, seulement les filets les plus courants, et puis on verra par la suite, mais ça représente déjà pas mal de travail, puisqu'il y a à peu près 600 tonnes sur toute la France annuellement, donc on va essayer déjà de recycler ça, et puis on verra pour la suite.
Oui, ça fait déjà beaucoup. Et justement, pour revenir, là, vous parliez du port du Conquet, notamment. Comment et auprès de qui est-ce que vous récupérez les filets de pêche?
Alors, aujourd'hui, la collecte, elle se met en place doucement. Pendant un moment, on travaillait un petit peu expérimentalement avec du environnement. Aujourd'hui, il y a des contrats qui se mettent en place donc pour qu'on soit en fait leur solution une fois que la collecte a été faite. Il faut savoir que les filets, en fait, qui sont collectés par appel d'offres, qui sont soit lancés par les CCI, par les régions, par différents organismes. Et nous, Filet Fab, on répond pas à ces appels d'offres-là. On n'est pas des collecteurs, on est des recycleurs. Donc, nous, on se met en collaboration avec les collecteurs, donc notamment Guyot, forcément, mais aussi avec d'autres. Par exemple, à l'île de Bas, ils ont été collectés, ils ont été amenés directement par un autre transporteur, et ça, géré par la région. Donc on travaille avec vraiment tous les organismes, tous les différents acteurs portuaires, les gestionnaires de ports, les collecteurs, la région Bretagne qui a la gestion de pas mal de ports sur la région forcément. Donc voilà globalement comment est-ce qu'on travaille. On a réuni en fait tous les différents acteurs pour essayer de faire en sorte de pas créer une synergie et puis de travailler en bonne intelligence avec eux.
Et pour revenir sur la start-up que vous avez montée, est-ce que avant de vous lancer, il y avait des compagnies un peu du même genre, des start-up du même genre qui vous inspiraient?
Nous, chez Cinefab, on n'aime pas trop le mot start-up. On se considère beaucoup plus comme une jeune entreprise qui essaye de débuter, qui essaye de faire quelque chose, qui essaye de répondre à une problématique. Là, comme ça, j'ai pas forcément d'idée de boîte qui nous intéressait par ces activités. Je pense qu'il n'y en a pas une en particulier, mais beaucoup, et chacune pour une activité qui va être différente. On va être influencé par l'activité d'une société parce qu'elle va avoir telle action pour l'environnement, une autre parce qu'elle que son énergie est seulement issue du solaire ou de l'éolien. Je pense qu'il y a des bonnes idées à piocher un petit peu partout et qu'il n'y a pas une entreprise en particulier qui a la bonne recette, la bonne réponse à son activité ou à une problématique. Et de la même manière pour Cinefab, nous, il y a plein de choses qui sont perfectibles et qu'on essaye de corriger, mais c'est des choses qui se font avec le temps et personne n'a une activité parfaite et parfaitement raisonnée, maîtrisée, etc. Donc je pense que ouais, les bonnes idées sont à prendre partout et on peut s'inspirer de plein de choses pour les mélanger et puis en faire une nouvelle, etc.
Et plus personnellement, est-ce que vous ou même vos deux autres compagnons, vous aviez déjà fait des initiatives écolo, des démarches écolo avant?
Avant, non. On avait sûrement participé chacun de notre côté ou peut-être même ensemble à des petits événements qui parlaient de ces thématiques-là, parce qu'on avait tous cette conscience-là, et c'est aussi pour cette raison-là qu'on a créé Cinefab. Mais je pense que ça, c'est propre à un petit peu tout le monde aujourd'hui, en tout cas j'espère. Donc non, pas particulièrement, et comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'océan ou à la mer, un lien qui a été renforcé depuis la création de Cinefab, je pense que nos convictions écologistes, je sais pas si c'est le bon terme, ont été renforcés aussi et forcément des actions ou des événements relatifs à ces thématiques-là on en fait plus aussi aujourd'hui parce que Cinefab a invité de temps en temps parce que nous, nos démarches personnelles on y va aussi, je pense à un événement en Normandie qui s'appelle les Pluies de Juillet auquel on a assisté, auquel on a participé il y a quelques temps et qui nous avait fait réfléchir sur un moment thématique par rapport à l'écologie, mais par rapport aussi à d'autres sujets de transition sociale, écologique, énergétique, etc. Donc avant, pas particulièrement, mais depuis la création de Cinefab, je pense que c'est un vecteur qui augmente un peu tous ces liens qu'on peut avoir avec ces thématiques-là.
Et justement, à quel moment dans votre tête vous êtes dit qu'il fallait passer de l'idée que vous avez eue au cours d'une soirée en marchant sur le port, etc., au projet concret, à la mini-entreprise? Quel a été le déclic?
Je pense pas qu'il y ait eu un déclic. Je pense que les choses elles sont construites petit à petit. Au tout début, comme je le disais au début de la discussion, c'est on était étudiants en design de produits. On avait l'idée vraiment de faire un objet avec un déchet et puis de pas forcément aller plus loin que ça. Et petit à petit, on rencontre qu'en fait, il y a énormément de filets. Et puis, pour produire un objet, il faut d'abord avoir la matière première. Et puis, cette matière première, elle n'existe pas. Donc, il faut la créer. Donc, il faut essayer de comprendre comment on peut recycler les filets. Et en fait, c'est en mettant un petit peu toutes ces billes les unes après les autres qu'on se rend compte que la problématique, elle n'est pas de créer un objet avec des filets de pêche, mais qu'elle est de les recycler en fait directement. Pour donner un exemple, ça sert à rien de faire 600 tonnes de chaises en filet de pêche. Ce qui est intéressant, c'est de faire 600 tonnes de matière recyclée pour qu'elle puisse être utilisée pour tout un tas d'autres objets. Et c'est là où en fait on s'est rendu compte que le design, c'était pas juste dessiner quelque chose, mais c'était de répondre tout simplement à une problématique en utilisant les différents outils qu'on a à disposition. Donc je pense que ça s'est construit vraiment sur tout au long en fait de la création de Filles et Fables, pendant qu'on était une association. Même aujourd'hui, il y a certaines approches qui évoluent un petit peu. On essaie de réfléchir à chaque fois sur ce qu'on fait, de prendre du recul pour faire les choses de la meilleure manière possible. Mais il n'y a pas eu de déclic vraiment majeur. C'est vraiment sur le temps long que les choses se sont construites et nous ont amené là où on est aujourd'hui.
Et là, à l'instant, vous parliez de design. Donc, vous êtes tous les trois designers de formation. Pour autant, vous avez des missions qui sont différentes. Vous occupez des postes qui sont différents. Comment on fait déjà pour apprendre ces choses que j'imagine on ne sait pas forcément tous faire, en tout cas au début. Et comment on fait pour se répartir les tâches?
Ça s'est fait un petit peu naturellement. À la naissance du projet, il y avait Théo était le porteur principal, je veux dire ça comme ça, puisque c'était son projet de diplôme en fait quand il était étudiant à l'ESAB. Thibaut était sur Brest, il avait arrêté ses études à ce moment-là, il était avec lui tout le temps, donc ils ont vraiment construit le truc à deux initialement sur les expérimentations, etc. Comme il était sur Brest. Moi, j'étais étudiant à Marseille au début du projet, donc je suivais ça d'un petit peu plus loin en faisant des vidéos, etc. Mais les choses, elles sont réparties naturellement, et puis au fur et à mesure qu'on avait besoin de compétences, on essayait un petit peu de se les répartir. Et puis aussi par rapport à ce qu'on aime faire, nous, en tant qu'individu. Par exemple, Thibaut a une très bonne connaissance de la technique, des matériaux, et en plus de ça, il a un goût, une appétence pour ça. Donc naturellement, il a pris le statut de référent technique et référent matériaux pour Filles et Fables. Théo, lui, il a une forte appétence pour le réseau, pour la construction de synergie entre les acteurs. Donc naturellement, il a pris ce statut-là. Moi, de mon côté, j'ai poursuivi mes études en design plus longtemps que Théo et Thibaut, donc j'ai un profil qui est plus axé sur le design de produits. Donc naturellement, je suis en contact avec les partenaires qui sont plus axés sur ces thématiques-là et sur la communication, etc. Donc les choses, en fin de compte, elles se répartissent assez naturellement par rapport à nos appétences. Après, forcément, il y a d'autres thématiques, je vais penser peut-être à l'aspect administratif, financier, etc., où là, aucun de nous n'a une appétence particulière pour faire des tableaux Excel. Donc, on se les répartit, on les fait un petit peu tous les trois, et puis on apprend comme ça sur le tas, en étant aussi accompagné par des gens, quoi. On n'a pas appris tout seul. Je pense à la Technopole, Brest-Tiroise, qui nous suit depuis les débuts, à un mentor industriel qui nous accompagne aussi, parce qu'on n'a pas toutes ces connaissances-là techniques. Donc, non, les choses se font naturellement, et puis on va chercher les compétences qu'on n'a pas quand il nous les manque et quand on en a besoin.
Et juste avant de continuer, on va faire une petite pause musicale en écoutant T'as quitté la planète de Alice on the Roof.
Toi, non, mais t'as quitté la planète. T'as cru peut-être que t'avais.
Vous êtes sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites. Et on est toujours avec Yann Louboutin qui a co-créé la start-up brestoise Fil & Fab et qui en discute avec nous. Je voulais revenir avec vous sur les étapes par lesquelles un filet de pêche passe avant de devenir plastique. C'est quoi les différentes étapes concrètement?
Alors les différentes étapes, bah déjà la première, ça va être les pêcheurs qui vont pêcher avec leur filet et qui, une fois qu'ils sont trop usés, donc environ au bout d'un an, un an et demi dans le meilleur des cas, vont déposer leur filet dans une benne ou dans une zone de dépôt en fait sur les ports. Une fois que ces zones-là sont remplies, il y a une collecte, donc un transport qui est fait. Donc cette matière-là arrive dans notre atelier, donc qui est à Plougonvelin, entre Brest et Le Conquet. À ce moment-là, les filets sont déposés. Nous, on va les trier. Donc on va les trier par couleur, par état, s'il y a beaucoup d'algues, s'ils ont des cordages, s'ils n'ont pas de cordages, etc. Donc on fait un tri le plus strict possible dès le début. Une fois qu'ils sont triés, il y en a certains donc, qui n'ont pas de cordage, donc on va déjà les mettre de côté parce qu'ils vont quasiment être prêts pour être transformés. Et après, il y a ceux qui ont des cordages. Donc ceux qui ont des cordages, on va devoir enlever les cordages parce qu'ils ne sont pas faits du même matériau. Et une fois que ces cordages sont enlevés, ils sont mis avec les autres. Une fois que plus aucun filet n'a de cordage, on doit les débrisser. Donc là, on enlève des petites cordelettes en fait qui servent à accrocher les filets au cordage en fait. Alors, c'est un peu précis, c'est un peu technique, je sais pas si c'est très visuel comme explication, mais globalement il y a une étape de démontage, de séparation en fait de tous les différents plastiques pour faire en sorte de pouvoir recycler un seul plastique et du coup d'avoir un matériau de qualité à la fin. Donc une fois que tout est séparé, il y a une étape de broyage. Le broyage, il va juste servir à réduire en fait des filets qui peuvent faire des dizaines, voire des centaines de mètres de long, en des petites fibres qui vont faire entre 40 et 60 millimètres. Et en fait, cette étape, elle est indispensable pour ensuite pouvoir les fondre et en faire des granulés. On pourrait pas directement mettre un filet dans la machine à faire des granulés, et elle nous dirait, non, en fait, ça marche pas, je peux pas traiter cette matière. Donc on les broie, et une fois que le filet est broyé, ça va dans cette machine en question, qui va venir les fondre, qui va en faire une pâte, et qui va ensuite les extruder, donc qui va en faire des longs filaments liquides, et ces filaments vont être coupés sous eau, donc avec un circuit d'eau fermé pour pas trop consommer, etc. Et vont être coupés très régulièrement en fait pour en faire des petits granulés qui sont la base de toute l'industrie plastique. Globalement, avec ça, on va pouvoir les injecter, on va pouvoir faire tout un tas d'objets. Mais voilà un petit peu les différentes étapes, la collecte, le tri, le démontage, le broyage et la granulation.
Et justement, pour parler de la fin de la chaîne, donc avec votre recyclage, avec toutes ces étapes dont on vient de parler, les filets de pêche deviennent donc un nouveau plastique que vous avez appelé Nilo. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est-à-dire, qui utilise ce plastique? Pourquoi? Comment?
Alors, qui utilise ce plastique? Là, aujourd'hui, il y a deux projets vraiment importants qui sont sortis. Il y a des lunettes de soleil en partenariat avec Armorlux, et Acuitis qui ont été produites. Donc, on en est très fiers parce que c'est les premiers objets en fait qui ont été produits 100% à partir de filets de pêche recyclés. Il y a aussi une montre qui a été faite avec une marque d'horlogerie suisse. Donc, on en est très fiers aussi parce que c'est une très belle preuve de confiance, de la part d'un acteur important et puis surtout d'un acteur de ce secteur-là, donc du luxe, qui se rend compte et qui fait un pas vers des dimensions un petit peu plus éco-responsables ou durables, ce genre de thématiques-là. Donc, c'est aussi très intéressant. Aujourd'hui, sur la manière dont ils sont utilisés, la plupart du temps, c'est injecté. Donc, en fait, on va mettre ces granulés-là dans une presse et ils vont être fondus, puis injectés dans un moule. Globalement, c'est une pâte qui va prendre la forme du moule, c'est tout simple. Aujourd'hui, c'est majoritairement utilisé comme ça, voire exclusivement utilisé comme ça. On a fait des tentatives pour faire du fil aussi, parce que le polyamide, c'est un matériau qui peut être utilisé pour faire du textile. Aujourd'hui, on n'y arrive pas encore, malheureusement. On va tout faire pour essayer d'en faire, mais c'est un petit peu compliqué. C'est un produit qui demande beaucoup de technicité et on n'y arrive pas encore. Mais globalement, ouais, c'est surtout de l'injection aujourd'hui qu'on peut faire à partir de Lilo.
Et est-ce qu'il y a des avantages particuliers qui sont inhérents à ce type de plastique au Nilo dont on peut ne pas avoir conscience
Globalement, ça va être un polyamide 6 qui se rapproche d'un polyamide 6 conventionnel. Sur le plan de ses qualités intrinsèques, il est forcément un petit peu moins bon parce que c'est un plastique recyclé. Et qu'un plastique, on dit qu'on peut le recycler à l'infini, c'est pas vrai. À chaque fois, il perd un petit peu en qualité une fois qu'on va le recycler. Donc, il se rapproche énormément d'un plastique, d'un polyamide 6, d'un nylon. Après, on peut l'utiliser dans tout un tas de domaines. Traditionnellement, c'est un plastique qui est très résistant aux températures, aux chocs. Donc, il peut être utilisé, par exemple, dans des pièces très techniques, dans des voitures, ce genre de choses-là. Mais étant donné que c'est un plastique qui est très performant et qui peut être utilisé dans un environnement où il est soumis à beaucoup de contraintes, on peut évidemment l'utiliser dans tout un tas d'autres domaines qui ne nécessitent pas toutes ces contraintes-là. C'est pour ça que voilà, faire une paire de lunettes avec ce matériau-là, bah oui, pas de souci, on peut évidemment, il n'y a pas de problème pour faire ce type de choses-là. Donc aujourd'hui, c'est un plastique comme un autre en fin de compte. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de dire, c'est que les plastiques recyclés sont tout autant performants, on peut faire à peu près les mêmes choses avec, sans trop de contraintes, etc. On milite vraiment pour cette reconnaissance-là, entre guillemets, qu'un plastique recyclé est un plastique avant tout, en fait.
Et là, à l'instant, vous parliez du fait que le plastique se recycle à l'infini, on va dire. Est-ce que là, justement, le plastique que vous avez créé de cette manière, il est recyclable à son tour? Là, je reprenais vos mots, parce que c'est vous qui disiez infini, mais est-ce que vous, c'est le cas, ou même à 100%, enfin, comment ça se passe en termes de recyclage?
Aujourd'hui, non, recycler à l'infini, c'est impossible, en fait. C'est une matière, quand on va la chauffer, quand on va la couper, l'extruder, toutes ces choses-là, elle va forcément un petit peu se dégrader. Donc, on ne peut pas dire que ce même bout de plastique, on va le recycler infiniment, c'est impossible. Enfin, c'est quelque chose qu'on nous vend, mais qui n'est pas vrai. Techniquement, c'est pas vrai. Il y a des solutions, après, qui existent pour essayer un petit peu de contrecarrer ça, c'est de se dire que une matière qui a déjà été recyclée, quand on va vouloir la recycler, ben on va la mélanger avec une matière qui n'a pas encore été recyclée. Comme ça, on va un petit peu panacher le recyclage pour faire en sorte d'avoir quand même une matière qui est intéressante et qui a des qualités techniques qui sont intéressantes. Sur la question du 100% recyclé, nous, les filets qu'on va recycler, on va pas réussir à les recycler à 100%. Parce que quand on fait un processus de recyclage, il y a un petit peu de perte. La machine de broyage, elle va disperser un petit peu de filet autour de la machine. La granulation, elle va au niveau des filtres, il y a certains éléments qui vont pas passer. Donc, un peu de plastique va partir à côté. Donc, partir à la. En fait, on peut pas techniquement recycler à 100% un produit. On a forcément un pourcentage de déchets. Aujourd'hui, je pourrais pas le donner. Je pense que sur la partie mécanique, on est aux alentours de 6% peut-être. De matière que, malgré nos efforts, on peut pas recycler. C'est incompressible. Voilà, globalement, je pense, c'est ma réponse à vos questions.
Non, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que, enfin, en tant que utilisateur, en tant que consommateur, on ne se rend pas forcément compte de si un plastique est recyclable. Et même si ce n'est pas recyclable à 100%, ça le reste quand même globalement de ce que vous dites.
Oui, exactement. Non, ce que j'allais dire surtout, c'est que sur un objet, qui est ce qu'on essaye aussi un peu de faire à chaque fois qu'on travaille avec des gens qui veulent l'utiliser, c'est de se dire que plus un objet va être simple dans les différents éléments qu'il compose, plus il va être facilement recyclable. Globalement, si un objet il a deux matériaux, ça va être beaucoup plus simple de les séparer pour faire en sorte de les recycler après séparément. S'il en a 5, 6 ou 10, là, il va falloir un tri, un démontage beaucoup plus complexe. Donc voilà, c'est aussi une dimension qui est à prendre quand quand on fait quelque chose, c'est de se dire ok, on va le faire de telle manière, mais comment est-ce qu'on va pouvoir le démonter pour sa fin de vie et pour sa réutilisation passée. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de mettre en place quand on travaille avec avec des gens.
J'ai un peu fouillé votre site, forcément. Et à un moment, il est notamment écrit que cette initiative, elle s'inscrit dans deux principes. L'écologie, bien sûr, donc tout ce qui va avec, la protection de la planète, etc. Mais également dans le fait que les territoires, aujourd'hui, ils ont la capacité d'apporter des solutions à leur échelle. Et je me demandais si, actuellement, vous pensez toujours à rester sur le territoire brestois, finistérien, breton, pour voir un peu plus grand. Ou alors, est-ce que vous envisagez la possibilité de vous exporter ailleurs sur le territoire français pour l'instant et pourquoi pas à l'étranger?
Aujourd'hui, on veut vraiment s'ancrer sur le Finistère, sur la Bretagne. Déjà parce qu'on n'a pas forcément envie de déménager ailleurs. Et puis surtout parce que les filets, ils sont ici, en fait. Comme je disais tout à l'heure, il y a 50% des filets qui sont bretons. À l'échelle nationale, il y en a 25% qui sont finistériens. Donc ça aurait aucun sens de se déplacer ou de déplacer l'activité de recyclage. Notre objectif, après, en fait, nous, c'est plutôt que de se déplacer, c'est d'essayer de décémer ou de dupliquer en fait des solutions de collecte ou de transformation un petit peu localisées. Pour donner un exemple, là, on travaille avec Leakdive sur la façade méditerranéenne. Pour des études, mais aussi pour des pré-collectes, des pré-broyages, ce genre de choses-là, pour faire en sorte de collecter à d'autres endroits, mais pas de le faire nous-mêmes. Nous, ce qu'on se dit, c'est que on va pas arriver avec nos gros sabots et dire nous, on sait comment faire, on va le faire dans telle région, telle région, telle région. Les régions, elles ont des volontés, elles ont déjà des écosystèmes, il y a déjà des associations ou des entreprises sur place qui travaillent dans ce sens-là. Vous devez le faire en bonne intelligence et travailler avec eux pour faire en sorte de collecter ces filets et puis de les transformer. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cette idée-là de créer des sortes de filières régionales un petit peu partout qui amèneraient toute cette matière-là déjà broyée ou déjà en partie traitée dans notre atelier après à Plougonblanc. L'idée, c'est de se dire que la machine de granulation, elle a une capacité pour traiter de la matière qui a d'à peu près 1000 tonnes à l'année. Donc, elle est dimensionnée pour le gisement national, voire un petit peu plus. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, on en fait un petit peu l'épicentre de la filière et puis un petit peu partout autour. On met des petites machines de broyage ou des endroits où les filets vont être triés, ce genre de choses-là. On est un petit peu dans cette optique de baliser le territoire avec plein de petites initiatives, de maillons en fait de cette filière-là pour faire en sorte de recycler tous les filets français. Ensuite, concernant l'international, c'est des choses qu'on a en tête. On est déjà en contact notamment avec des gens au Maroc pour faire en sorte de recycler des filets là-bas, mais c'est encore des choses qui sont en étude, donc je ne vais pas trop en parler. Mais voilà, globalement pour la France, avec qui où ça avance forcément plus vite, notamment en Normandie et puis en Occitanie et en PACA.
Et enfin, dernière question, tout à l'heure vous parliez des deux types d'objets que vous avez pu créer en vous associant avec des marques, donc à la fois des lunettes, à la fois des montres. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des marques avec lesquelles vous rêveriez de collaborer dans l'optique de créer tel ou tel objet en îlot? En tout cas, en partie.
Nous, forcément, je vais parler pour moi, mais je pense que Théo et Thibaut, mes associés, seraient d'accord. On vient du design de produits. On a tous les trois une formation dans ce domaine-là. Donc, si un jour, on a l'opportunité de produire des objets en îlot avec des marques de ce domaine-là, je pense évidemment à Vitra en premier, qui est quand même la référence à mes yeux sur tout ce qui va être le design de produits. On serait très très fiers. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pour nous le plus important, c'est d'essayer de recycler un maximum de filets pour en faire des objets qui ont du sens. Peu importe avec qui on soit, tant que l'objet est pertinent, est sensé, est pensé, c'est le plus important.
Oui, donc si jamais il y a des entreprises qui nous écoutent et qui veulent collaborer avec vous, la porte est ouverte. Merci beaucoup, Yann. C'était donc Yann Leboutin, co-créateur de la mini-entreprise Filenfab, qui récupère les filets de pêche usagés pour en faire une nouvelle matière, un nouveau plastique nommé Nilo. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous laisse maintenant avec la chronique radiophonique L'économie autrement. Aujourd'hui, nous sommes à la maison des associations à Rennes, où la pépinière des associations héberge Estime Numérique, une association de promotion de la mixité dans le secteur du numérique créée en 2017. Tout de suite, présentation de l'association, des équipes qui la font vivre et du territoire couvert.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Bonjour.
Oh bah, une survivante.
Et le reste de l'équipe entourage.
Bonjour.
Et donc, le chien.
Et le chien de Kitri, mascotte de la pépinière.
Donc ici nous sommes dans la pépinière des associations, au sein de la maison des associations qui est gérée par l'association Bug et qui regroupe plusieurs associations du territoire rennais, dont Estime Numérique.
L'association Estime Numérique a été créée en 2017. Mélissa Cotin, directrice coordinatrice générale de l'association Estime Numérique, qui a pour but de d'œuvrer pour la mixité et la diversité dans le monde du numérique. Estime pour estime de soi, mais aussi c'est un acronyme, donc le E pour entreprise, le S pour synergie, le T pour territoire, le I pour inclusion et le M pour mixité. Alors l'association a eu plusieurs étapes. Elle a été créée par une personne, Cécile Martin, qui est aujourd'hui directrice d'Incubateur à Rennes, qui est toujours présidente exécutive de l'association. Et de 2017 jusqu'à à peu près fin 2019, l'association a surtout été gérée par des équipes bénévoles. Et puis moi, j'ai rejoint l'association en salarié, première salariée véritablement, en janvier 2020, avec cette volonté-là de structurer, professionnaliser l'association. Aujourd'hui, nous sommes deux salariés, une alternante en communication depuis octobre. Alors les bénévoles, c'est assez difficile de dire combien. En fait, on a des bénévoles en fonction de nos besoins et en fonction de nos événements. Donc on a à peu près entre 30 ou 50 bénévoles en fonction de la grosseur de l'événement. On a un partenaire, même plusieurs, qui nous soutiennent. Alors, on a la région Bretagne, forcément, qui nous soutient depuis le début. En fait, pour résumer, nos partenaires sont tous les acteurs qui gravitent autour de l'écosystème du numérique en région Bretagne, que ce soit des entreprises, des acteurs de l'emploi, des acteurs publics, des associations. La maison des associations de Rennes, c'est une super opportunité pour nous, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un lieu quand même central, qui regroupe d'autres associations qui ont les mêmes volontés que nous et les mêmes valeurs. Et c'est plutôt avantageux d'avoir un lieu d'accueil pour nous.
Il y a des ponts entre les autres acteurs avec lesquels vous êtes ici à la Maison des Associations?
Complètement, notamment avec MakeMe. On a commencé aussi déjà à travailler avec eux sur Tech in Vitré l'année dernière. C'est un événement autour des makers d'acculturation numérique qui a lieu chaque année à Vitré sur plusieurs jours. Et puis plus récemment, on s'est aussi regroupé avec d'autres associations de la Maison des Assos sur TeachMe, qui est un événement autour de la fracture du numérique. Et puis on s'est regroupé avec Entourage, avec l'association Bug, avec MakeMe, avec Proxité. Aujourd'hui, on est en projet de se déployer. On a commencé à créer une antenne dans le Morbihan. La volonté aussi d'aller se déployer dans les Côtes d'Armor et puis dans le Finistère. Donc c'est aussi d'aller au plus près de nos publics. Aujourd'hui, les événements distanciels nous permettent d'ouvrir sur tous les secteurs. Mais comme on a aussi une volonté de rapprocher acteurs du territoire et publics du territoire, on essaie quand même de rester sur un ancrage territorial, voire même départemental ou local.
Et donc là, c'est normalement la salle de réunion. Mais avec le Covid, on essaie d'utiliser un peu tous les espaces pour se retrouver et respecter les règles sanitaires.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
upon a time at the foot of a great mountain. There was a town where the people known as happy folk lived. Their very existence a mystery to the rest of the world, obscured as it was by great clouds. Here they played out their peaceful lives, innocent of the litany of excess and violence that was growing in the world below. To live in harmony with the spirit of the mountain called Monkey was enough. Then one day, strange folk arrived in the town. They came in camouflage, hidden behind dark glasses, but no one noticed them. They only saw shadows. You see, without the truth of the eyes, the happy folk were blind.
Falling out of aeroplanes and hiding out in holes, waiting for the sunset to come, people going home. Jump out from behind them and shoot them in the head. Now everybody dancing, the dance of the dead, the dance of the dead, the dance of the dead.
In time, strange folk found their way into the higher reaches of the mountain, and it was there that they found the caves of unimaginable sincerity and beauty. By chance, they stumbled upon the place where all good souls come to rest. The strange folk, they coveted the jewels in these caves above all things, and soon they began to mine the mountain, its rich seam fueling the chaos of their own world. Meanwhile, down in the town, the happy folks slept restlessly, their dreams invaded by shadowy figures digging away at their souls. Every day, people would wake and stare at the mountain. Why was it bringing darkness into their lives? And as the strange folk climbed deeper and deeper into the mountain, holes began to appear, bringing with them a cold and bitter wind that chilled the very soul of the mountain. For the first time, the happy folk felt fearful, for they knew that soon the monkey would stir from its deep sleep. Then there came a sound, distant first, that grew into gastrophony, so immense that it could be heard far away in space. There were no screams. There was no time. The mountain called Monkey had spoken. There was only fire. And then, nothing.
Oh, little town in USA, the time has come to see there's nothing you believe you want. But where were you when it all came down on me? Did you call me on?
garde à vue quand on a trop bu. La garde à vue quand on a trop bu. C'est un service public que je paie comme tout le monde, que je paie comme le loto, que je paie comme les hôpitaux. Laisse-moi donc faire dodo, laisse-moi donc faire mon roux. Là sur ce banc vénérable où mon père bien avant moi s'est posé au petit matin, peut-être en compagnie du tien. S'il était plus malin que toi, s'il était plus malin que toi. C'est pas parce que je suis le prisonnier, dis-toi le gardien, qu'il faut faire le malin. C'est pas parce que je suis le prisonnier, dis-toi le gardien, qu'il faut faire le malin. Sois joyeux, heureux et fier. Sois joyeux, heureux et fier de cette fonction que t'a confié la nation, de veiller sur mon ivresse au lieu de me botter les fesses. Arrête ta grosse voix de papa en carton, baisse le ton. Tu dois avoir au mieux l'âge de mon petit frère. Va plutôt me chercher une bière. C'est pas parce que je suis le prisonnier, dis-toi le gardien, qu'il faut faire le malin. C'est pas parce que je suis le prisonnier, dis-toi le gardien, qu'il faut faire le malin. Et si j'avais voulu, j'aurais pu avoir ta femme, avec ta soeur en plus, avec ton chien en plus, avec ta fille et son Samsung en plus.
Et d'ailleurs, à l'heure qu'il est, je peux sûrement encore les avoir.
Alors ta gueule, s'il te plaît, et va raser ce bouc odieux. T'as l'air d'un plouc, même parmi les tiens, mon vieux.
Opte plutôt pour un mulet, opte plutôt pour un mulet,
avec pointe à l'arrière, car c'est, je le prédis, l'avenir capillaire dans la gendarmerie.
Même le fils du préfet l'a compris.
Même le fils du préfet l'a compris. Nous sommes le flé, nous sommes le flé. Nous sommes le flé, oh, autant que le remède.
C'est pas parce que je suis le prisonnier, dis-toi le gardien, qu'il faut faire le malin. C'est pas parce que je suis le prisonnier, dis-toi le gardien, qu'il faut faire le malin.
Smile if I could, but I languished in my steady old demise.